France Inter.
Et c'est le journal de Florence Paracuellos qui arrive tout de suite dans ce studio. Il doit y avoir un petit problème d'impression du canard. Voilà, elle est là, Florence. Bonjour à vous. Et bonjour à tous, voilà, c'est parti.
Mais oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des mots sur la douleur à Arras, hommage national aux victimes du terrorisme. Aujourd'hui, là-bas, le professeur Dominique Bernard était assassiné en octobre dernier. La vie a repris dans son lycée, mais on ne peut pas parler de résilience. Témoignage dans un instant. Une aide à mourir encadrée pour les malades condamnés. Emmanuel Macron a enfin dévoilé ses ambitions sur la fin de vie, avec un projet de loi qui pose beaucoup de questions. On va l'entendre dans ce journal. Nous serons aussi dans le Gard où l'on s'interroge sur les ponts submersibles. Trois personnes sont mortes en les traversant ce week-end de crue. Nous serons au Portugal où la droite remporte de justesse les législatives et où l'on note une montée très forte de l'extrême droite. Et puis direction Hollywood. En fin de journal, Justine Triet, Anatomie d'une chute, prix du meilleur scénario.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale. Léa Salamé, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Notre invité tout à l'heure.
Figure du droit, des libertés individuelles et de l'Académie française, il parle rarement, mais quand il parle, c'est haut et fort. Et on l'écoute à l'occasion de la sortie de Son Aller, son nouveau livre très personnel chez Gallimard. On est heureux de recevoir à 8h20 l'avocat et écrivain François Sureau.
Et vos questions, 01 45 24 7000.
France Inter.
À quoi servent les cérémonies d'hommage comme celle d'aujourd'hui, hommage aux victimes du terrorisme, instauré il y a 4 ans, organisé à Arras cette année, traumatisé par l'assassinat d'un professeur de français au mois d'octobre, Dominique Bernard, poignardé à mort devant son lycée par un ancien élève radicalisé. Le Premier ministre Gabriel Attal est attendu ce matin dans l'établissement. À quoi servent les hommages? Peut-être à mettre des mots là où le silence s'est installé. Reportage au lycée Gambetta d'Arras, signé William Delesseux.
Depuis l'attentat, des blocs de béton blanc protègent l'entrée de l'établissement. Lilian, en classe de seconde, regarde le bâtiment.
Je peux pas m'empêcher genre de revoir ce mec avec son couteau qui repasse devant nous. Quand on regarde dans la cour, je peux pas m'empêcher de voir les employés du collège et du lycée en train de lui faire face. Sûr, ça reste en mémoire.
Ce moment-là, il a été difficile de l'aborder avec ses enseignants.
Ils osent même pas parler, genre ils disent... Ouais, ce qui s'est passé, c'était choquant et tout, mais ils n'osent pas mettre les mots dessus.
On n'en parle pas de ce qui s'est passé, c'est un sujet un peu tabou.
Arthur, en seconde, lui aussi.
C'est pas qu'on veut pas en parler, mais on évite le sujet en général. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez pudiques là-dessus, sur ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vu, etc.
Comme une page trop vite tournée dans l'établissement, raconte François Duceppe-Lamar, professeur d'histoire, encore très ému.
On a vite oublié les victimes et on est vite passé « Ah bon, ce sont des héros, ils se sont bien comportés, maintenant vogue la galère, on continue ». On a vraiment oublié le fait que nous avions vécu un traumatisme, les uns et les autres, et qu'il fallait en prendre soin des uns et des autres et pas seulement rentrer dans le quotidien.
Pour l'enseignant, l'hommage, la cérémonie d'aujourd'hui va permettre de peut-être libérer la parole de ses collègues comme des élèves.
Reportage William Delesseux. Et après Arras, le Premier ministre Gabriel Attal est attendu dans le Pas-de-Calais pour aller voir une troisième fois les sinistrés des inondations au sortir d'un week-end meurtrier dans le Gard. 3 morts et 3 disparus, un père de famille et ses 2 enfants. Ils ont tous traversé des ponts submersibles sur des rivières en crue. Dans ces cas-là, des barrières sont abaissées, interdiction de circuler, mais il est toujours possible de les contourner. Alors faut-il faire plus quand les cours d'eau débordent? Les habitants du Gard ont-ils conscience du risque? Question posée à Dionce et Russan, 2 communes concernées par les drames du week-end.
Quand je vois que le pont qui est de l'eau comme ça, je le prends pas le pont. Ça fait peur, quoi. Bon, il y a des gens qui passent outre, quoi, la barrière, qui passent de côté, quoi. Ah là, ça s'est pas pris là non plus, hein. Ça se fait, quoi.
Dès que c'est annoncé des épisodes de la pluvieux dangereux comme ça, il faudrait fermer de base par sécurité. Il faudrait pas prendre le risque d'attendre de voir si le gardon monte ou pas et jouer la sécurité avant d'attendre les accidents comme ça.
Pourquoi pas le rehausser? Du coup, l'eau passerait peut-être moins fréquemment par-dessus.
Il faut être strict. À mon avis, il faut mettre des barrières que les véhicules ne puissent pas du tout passer, quoi. Interdiction totale de passer, hein. Je pense que c'est la meilleure solution parce que là, c'est malheureux, quoi.
Alors, fermer totalement les accès aux ponts submersibles en cas de crue, c'est le débat depuis hier. Il va falloir y réfléchir, dit Frédéric Loiseau, le secrétaire général de la préfecture du Gard.
Il y aura un dialogue très certainement à engager avec les responsables des collectivités locales, peut-être avec nos autorités centrales, pour voir comment nous pourrions redéfinir une doctrine par rapport au franchissement de ce genre d'équipement dans des conditions qui sont des conditions de dangerosité. Une fois qu'on aura nourri ces événements d'un certain nombre de renseignements que nous n'avons pas encore à l'heure où je vous parle, et nous verrons s'il y a lieu de faire évoluer un certain nombre de doctrines en lien avec les gestionnaires de réseau, en lien avec les collectivités locales.
Dossier signé France Bleu Gard-Lozère. Les recherches des disparus ont repris ce matin. En Ardèche, on est également sans nouvelles du responsable d'une centrale hydroélectrique partie contrôler son installation. 6 départements sont toujours en vigilance orange crue aujourd'hui. La Charente-Maritime, la Gironde, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, la Saône-et-Loire et Lyonne.
Il est 8h06, regardez la mort en face et l'inviter plutôt que prévu.
C'est le projet de loi sur la fin de vie, enfin dévoilé par Emmanuel Macron dans une interview commune à Libération et au quotidien La Croix, après une longue réflexion sur ce sujet si intime et douloureux. Le président propose donc une aide à mourir, ce sont ces mots, pour abréger les souffrances des malades qui le demanderont, après avis des médecins et selon des critères stricts, une réelle avancée. Pour cet homme de 46 ans, Loïc Rézibois, atteint de la maladie de Charcot qui paralyse progressivement tous les muscles du corps.
Ça va nous permettre, je l'espère, de retrouver ce qu'on souhaite quand on est en fin de vie, c'est de la sérénité. Parce que l'aide active à mourir, selon le texte, c'est pas une chose vers laquelle les malades qu'on est vont se précipiter. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est avoir une fin de vie sereine. Et savoir qu'une loi nous permette enfin, en France, de pas nous retrouver dans une situation où on n'est pas encore mort, mais plus tout à fait vivant, c'est extrêmement important.
Une fin de vie sereine, dit ce malade, un chemin de fraternité, selon le président de la République, qui veut donc instaurer le suicide assisté avec une exception d'euthanasie sans jamais prononcer ces termes. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
C'est une loi qui s'adresse donc aux malades incurables et qui pose en l'état beaucoup de questions.
Oui, le président Emmanuel Macron entretient le « en même temps », ménager les opposants à l'aide active à mourir, les soignants, les cultes, tout en rassurant les partisans d'un droit à l'euthanasie. La règle générale sera la suivante. Quand le patient en a la capacité, il s'administre lui-même le produit létal. Et quand ce n'est pas possible, dans des cas de handicap lourd par exemple, un proche ou un soignant peut intervenir dans le geste fatal.
Ce modèle français de la fin de vie se veut donc très prudent, Alice, avec des conditions d'application strictes.
Oui, en seront exclus les patients de moins de 18 ans, les malades psychiatriques, les malades d'Alzheimer dont le discernement est altéré. Mais ce qui interroge le plus, eh bien, c'est la notion de pronostic vital engagé à moyen terme. Il est très difficile pour les médecins de déterminer l'espérance de vie d'un patient, ce qui peut rendre cette loi inapplicable, estime Jean Leonetti, à l'origine de deux lois sur les droits des malades en fin de vie. Il était interrogé ce matin au micro de France Culture.
Quand on est flou, il y a une difficulté à l'application des lois. Court terme, on arrive à peu près à voir que c'est quelques jours, quelques semaines. Moyen terme, c'est quoi? C'est un an? C'est deux ans? Donc on voit bien que là aussi, on va avoir d'énormes difficultés dans l'application de la loi.
Le risque, me confie un député, c'est de créer une usine à gaz, un droit inapplicable donc. Des parlementaires qui auront la tâche de préciser les contours de ce modèle de fin de vie à la française.
Alice Cachaner, la proposition de loi passera en première lecture devant l'Assemblée au mois de mai. Elle n'aboutira sans doute pas avant 2025 et ne peut pas être totalement consensuelle, reconnaît le président. On l'a entendu dans l'interview de l'évêque de Nanterre. Il y a quelques minutes, à 7h50.
Il est 8h09 au Portugal, Florence. La droite revendique la victoire et la gauche au pouvoir depuis 8 ans reconnaît sa défaite.
Les élections législatives d'hier donnent une très légère avance au parti de centre-droit en attendant le vote des Portugais de l'étranger la semaine prochaine, mais pas de majorité possible en l'état. Et ce qui frappe au-delà de l'alternance, c'est cette forte poussée de l'extrême droite. Julie Pietri, vous êtes l'envoyée spéciale de France Inter à Porto, bonjour.
Bonjour.
Julie, le parti populiste, Chega, ça veut dire assez en français, récolte 18% des voix contre 7 il y a 2 ans. On peut parler ce matin, Julie, de la fin de l'exception portugaise. Le pays n'est plus imperméable à l'extrême droite.
Oui, en fait, il y avait cette idée que la dictature, finalement, elle était encore fraîche dans les esprits. La révolution des œillets, c'était il y a 50 ans. Et donc, que l'histoire faisait, en quelque sorte, office de vaccin contre le populisme. Chega, c'est un parti qui est tout jeune. Il a 5 ans. Et en 2022, vous l'avez dit, lors des dernières législatives, c'était 7% des voix. Là, ce matin, ils sont à 18. Ils font plus que doubler leur score.
Nós hoje somos mais de 1 milhão em Portugal.
Nous sommes plus d'un million au Portugal, criait hier soir André Ventura, le leader de l'extrême droite. Je ne sais pas si ce sera dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, mais nous allons gagner les élections législatives. Une précision importante, André Ventura, admirateur de Trump et Bolsonaro, qui s'affiche volontiers aux côtés de Marine Le Pen, refuse, lui, d'être classé à l'extrême droite. Il a policé son discours pendant cette campagne. Il a mis de côté ses propos xénophobes, anti-gitans, anti-migrants. Il n'a plus scandé la devise « Dieu, famille, patrie, travail », référence claire à la dictature de Salazar. Il a travaillé l'opinion sur le thème du grand nettoyage de la classe politique, le gouvernement socialiste étant tombé à cause de soupçons de corruption. Aujourd'hui, Chega veut gouverner avec l'alliance de centre-droit qui refuse pour l'instant.
Julie Pietri en direct de Porto avec Johanna Gabric. 100 euros de reste à charge pour se former selon les échos. Le gouvernement a tranché sur le compte personnel de formation, mise à contribution pour faire des économies dans les dépenses publiques. Il était question de faire payer 10% des formations à ceux qui s'y inscrivent. Ce sera donc finalement un forfait de 100 euros. Ce serait une première en France, une mine de lithium dans le Massif Central. Projet de la société Imerys à Échassières dans l'Allier. Le lithium est un minerai stratégique, notamment pour les batteries électriques. S'en procurer à demeure réduirait la dépendance de la France à l'étranger et le projet pourrait créer 1 millier d'emplois. Une fois qu'on a dit ça, des questions se posent. Environnementales notamment, Célia Kiré, le débat public qui s'ouvre aujourd'hui en ligne promet d'être assez tendu.
L'entreprise Imerys veut extraire du lithium au sous-sol de sa mine de Kaolin. L'objectif est de produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an pour fournir des batteries à 700 000 véhicules électriques et couvrir un tiers des besoins des Français, assure Alan Part, responsable du projet pour Imerys.
Il n'y a absolument aucune production aujourd'hui en Europe et en France de lithium, donc on a une dépendance totale. Aujourd'hui, le lithium, il vient d'où ? Il vient de Chine, principalement, d'Australie, d'Amérique du Sud, et on sait très bien qu'il y a les conditions environnementales et sociales à l'autre bout du monde ne sont pas aux standards français et européens. Donc c'est aussi une question de faire ça chez nous, selon nos propres règles.
Mais les ressources en eau seront-elles suffisantes ? Quel risque pour la qualité de l'air, la biodiversité dans la forêt ? Il faudra évaluer aussi les conséquences sur la qualité de l'eau, estime Mathias Bourissou, président du débat public.
Dès lors qu'en fait, il y a un besoin en eau à l'entrée des procédés extractifs, la question se pose aussi de savoir à la sortie quels sont les rejets que pourrait à un moment donné produire justement l'usine. La question est de savoir comment on s'assure qu'on n'ait pas de pollution quand on rejette l'eau, quelle est sa qualité et comment on garantit justement celle-ci.
Imerys promet déjà d'évaluer les conséquences de cette mine sur la nappe souterraine. La première réunion du débat public est prévue demain soir à Moulins.
Célia Kiré, le débat public est organisé sur le site de la Commission nationale du débat public, cndp.fr. Plus que 4 jours pour faire ses vœux. La pression monte pour les lycéens devant Parcoursup, épreuve de terminale avec le bac pour laquelle de plus en plus de familles réclament de l'aide et payent des coachs en orientation pour accompagner les futurs étudiants. Sonia Princesse, ça n'est plus réservé à une élite.
Après ses cours au lycée, Anatole en terminale a rendez-vous avec sa coach. Ultime séance pour peaufiner ses lettres de motivation pour Parcoursup.
Elle m'a fait des exercices pour savoir un peu mes centres d'intérêt principaux et mes valeurs. Par exemple, le contact avec les gens, le contact humain, donc ça m'a vraiment touché. Et c'est ce que je veux retranscrire dans mon projet professionnel.
Ses parents ont financé 6 séances à 90 euros chacune, soit plus de 500 euros au total.
C'est un peu onéreux, mais si les gens ont les moyens de payer, c'est bénéfique.
Utile aussi pour Ethan, qui a également eu recours à une coach privée.
Moi, je trouve que ça m'a aidé parce que à l'école, on n'est pas toujours bien informé sur Parcoursup, comment ça marche et tout. Et du coup, elle m'a bien aidé dans les lettres de motivation à mettre tout ce qu'il faut mettre en avant.
Chaque année, Sophie Laborde-Baleine enregistre 15% de demandes en plus de conseils pour Parcoursup. Elle dirige Ton Avenir, un réseau de coachs recherche en orientation scolaire et ce ne sont plus seulement des familles aisées qui font appel à elle.
Vous voyez, ce matin, bon, j'ai une maman, elle est vendeuse dans un magasin, mais elle veut donner le maximum de chance à sa fille. C'est ce qu'elle m'a dit, elle me l'a dit vraiment comme ça. Je veux vraiment que Lisa ait le maximum de chance que je n'ai pas eu moi à mon époque. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En tant que vendeuse, elle ne roulait pas sur l'or. Eh ben, c'est pas grave. Elle a sans doute prévu ça dans son budget et donc ça s'est beaucoup démocratisé.
Les profils d'élèves sont variés aussi, des candidats au dossier scolaire fragile ou d'excellents élèves qui veulent accéder à des filières de plus en plus sélectives.
Sonia Princey, le boom des coachs d'orientation pour passer l'étape Parcoursup, c'est aussi à lire sur franceinter.fr. Direction Los Angeles, maintenant Hollywood et la cérémonie des Oscars. Cette nuit, c'est Oppenheimer qui rafle la mise, meilleur film, meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, meilleur acteur pour Cillian Murphy. Anatomie d'une chute ne repart pas bredouille. La Palme d'Or décroche le prix du meilleur scénario pour Justine Triet et son compagnon Arthur Harari. Ça n'est pas rien, dit la réalisatrice, statuette en main au micro d'Alexis de Meyer.
C'est vrai que c'est lourd. Non, mais je pense que c'est quand même l'un des plus beaux prix avec la Palme d'Or, je pense, d'avoir cet homme nu. Voilà, c'est assez chouette. C'est un rêve, mais c'est aussi une campagne. Hein. Franchement, c'est vrai que c'est vraiment du travail. C'est vrai qu'on a commencé, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça allait être. C'est super. Moi, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert aussi comment ça marchait dans ce pays à plein de niveaux. Et donc, c'est assez intéressant de comprendre comment ça, les choses marchent. Et puis moi, à titre personnel, c'est vrai que j'ai été très heureuse de rencontrer des acteurs, des actrices, des réalisateurs que j'admire. Donc ça a été la partie plutôt la plus agréable. Donc voilà, mais c'est vraiment une campagne. C'est pas, ça ressemble à rien de ce que je connaissais avant, ni en France, ni... voilà. Je pense que c'est la première fois que j'ai fondu en larmes après avoir reçu un prix. Je suis sortie, j'ai craqué. Non, c'est hyper émouvant. On est extrêmement heureux, joyeux de ce prix, ouais. On s'était un peu protégés en se disant quand même, il y avait pas mal de films importants et tout. Donc ouais, on est super contents.
Voilà, fin de campagne pour Justine Triet. Et c'est La Zone d'intérêt, le film de Jonathan Glazer qui remporte l'Oscar du meilleur film international.
Merci Florence Paracuellos. À 9h20, je vous le rappelle, Léa Salamé reçoit aujourd'hui Gad Elmaleh pour son nouveau spectacle. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur Euromaster.fr.
Et prudence Marie-Pierre sur les côtes aquitaines.
Et oui Nicolas, car à la fois on a la Gironde, donc toujours placée en vigilance orange crue, comme les 5 autres départements, mais s'ajoute aussi le vent d'ouest qui se renforce, combiné à de très hauts coefficients de marée jusqu'à 116 au moment des pleines mers, donc il y a un gros risque de vagues submersion. Le vent va également se renforcer autour de la Méditerranée, jusqu'en Corse, la tramontane soufflant jusqu'à 90 km/h et 70 sur les côtes varoises, comme sur les caps corses, où les averses orageuses vont éclater toute la journée, comme d'ailleurs sur les régions de l'Est, car la dépression Monica s'échappe et laisse derrière elle un air froid en altitude qui crée de l'instabilité et du Jura à la Corse, avec de la neige sur les Alpes, le massif central et Pyrénées à 1100 mètres.
Et au nord de la Loire, pardon, le ciel va s'ennuager.
Et oui, alors que la matinée sera plutôt ensoleillée de la Bretagne au centre-val de Loire à l'Île-de-France, à l'Alsace, même si une averse n'est jamais exclue. Le ciel gris et les pluies qui arrosent le nord et la Lorraine le matin vont gagner les Hauts-de-France et le nord du bassin parisien en journée. Avec cet air froid en altitude, le mercure va baisser un petit peu avec même quelques petites gelées encore ce matin en Haute-Marne et dans le Jura. Et cet après-midi, au plus bas, on attend 8 à Aurillac, 10 au Havre, 11 à Lille, 13 à Paris, à Nantes ou Dijon. Comptez 14 à Lyon, Orange, 15 à Marseille et 16 à Bastia. En se rappelant, Nicolas, quand les grenouilles chantent en mars, elles se taisent en avril.
Grand bien leur face. Merci Marie-Pierre. Il est 8h18.